À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animé par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonjour Laurent, bonjour Serge.
Bonjour Laurent, bonjour Serge, bonjour à tous.
On continue donc avec nos émissions de l'année qui tirent petit à petit à leur fin sur Couleur FM.
Pour cette année.
97.1, bien sûr. L'année en cours, l'année scolaire, l'année professionnelle,
l'année des associations.
Alors actualité, on va faire un peu de, on va se concentrer sur INIS. L'actualité en général est très intéressante, mais on va parler de notre récente actualité qui était un voyage dans les Dolomites. Alors, Dolomites, patrimoine inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Les Dolomites, c'est une région assez vaste en fait, hein, qui part du Trentin. Limite Lombardie, et on a le Trentin, le Haut-Adige, le Sud-Tirol, donc la Vénétie, un tout petit bout sur le Frioul. Donc nous, on s'est concentré parce qu'il fallait faire des choix, et même à l'intérieur de chaque choix, il faut refaire des choix, parce que quand on fait un voyage, c'est un voyage donc pour les adhérents de l'association. Quand on fait un voyage de ce type, il faut tenir compte des distances, mais surtout du temps passé à les faire, puisqu'on est en haute montagne pour la plupart du temps. Et puis, il y a des sensibilités différentes et des points d'intérêt qui sont multiples, mais qu'il faut équilibrer, ne pas faire qu'un type de visite ou un autre. Alors, on s'était concentré, nous, surtout au départ sur la région Vénétie. Et donc on a, il faut savoir que la Vénétie, notamment Cortina d'Ampezzo, est le siège du dossier, enfin d'où a été élaboré le dossier qui a permis aux Dolomites de rentrer dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a donc logeait dans la région du Cadore, donc Pieve di Cadore particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait à la fois des visites de musées, des visites de sites. On a essayé de présenter différents aspects de ces régions.
Vous avez marché un peu?
Marché un petit peu. Alors, le premier jour, on est allé au Tre Cime, les fameuses Tre Cime et emblèmes des Dolomites, qui restent magnifiques. On n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'encore une fois, pour des raisons de temps, mais on a eu un temps superbe en plus, ce qui était vraiment une aubaine parce que la montagne avec un autre temps, c'est une autre dimension. Donc les Tre Cime et donc ces fameux trois cimes que vous voyez, trois pointes que vous voyez dans des tas de bouquins, des expos photos, et qui sont donc à Lavaredo, près de Auronzo et du lac de Misurina. Et balade à faire impérativement pour qui va dans ces régions. Tout ça reste magique. Ensuite, l'après-midi, alors vous savez que les Dolomites ont été aussi un des grands lieux de la Première Guerre mondiale, avec le conflit entre l'Italie et l'Autriche.
Il y a beaucoup de routes actuelles qui sont des pistes militaires.
Bien sûr. Et il y a des Via Ferrate aussi, il y a des tas de choses. Alors bon, là aussi, il fallait sélectionner. On n'allait pas aller voir tous les sites, tous les musées. On a choisi, nous, un petit fort qui était pas loin de Cortina, qui était au col Valparola, où un passionné, mais vraiment un passionné, a créé ce musée qui, à la fois, qui était en fait les restes d'un fort austro-hongrois, mais à l'intérieur duquel il a mis à la fois des documents, des tenues, des pièces militaires, etc., de l'armée austro-hongroise et de l'armée italienne, ce qui donne déjà une visibilité assez intéressante. Et il retrace aussi le conflit, ce conflit de l'Autriche-Hongrie qui, après la Première Guerre mondiale, ben, voyait son territoire repasser à l'Italie. Mais bon, apparemment, c'était l'inverse. Enfin bref. Et musée très intéressant qui nous a permis de rencontrer des gens... vraiment étonnant, et son épouse, qui est sarde, est née à Lyon, en fait. Donc, tout ça a permis, bon, j'entre pas dans le détail des rencontres, mais il y aura sans doute quelque chose derrière. Et ils nous ont parlé notamment du livre de Emilio Lussu sur Nano sull'Altipiano, inspiré de son bouquin, donc, d'Emilio Lussu, ce bouquin d'Emilio Lussu, pas lui, il s'est inspiré lui-même, mais qui avait pris des notes pendant 20 ans, et puis qui avait sorti, enfin, pendant toute sa période de guerre, et qui a sorti son bouquin, pardon, 20 ans après. Il nous reparlait de ce bouquin, on lui a précisé qu'on avait fait venir la troupe marseillaise, qui avait donc joué sur une scénographie inspirée du bouquin, et il n'est pas impossible qu'on crée quelque chose sur place là-bas, enfin, donc intéressant. Pieve di Cadore est connu pour son musée titien, puisque le Tiziano est né là-bas. C'était un peintre très connu, dont il reste peu d'œuvres sur le coin. Il reste une principale. Les autres sont plutôt à Venise et dans tous les pays du monde. Oh, ben, c'est autour des années 1400. Voilà, Et le Titien n'est pas seulement un peintre, il était aussi un commerçant, puisqu'il organisait le commerce du bois, puisque les forêts des Dolomites permettaient de nourrir Venise, notamment dans ses besoins au départ, peut-être, de pilotis pour constituer la ville, mais après aussi pour l'arsenal de Venise, pour la Sérénissime plus tard, etc. On a donc aussi visité, alors c'est une région qui est encore très active au niveau de la fabrication des lunettes. Et il y a en plein encore de petits artisans dans cette vallée du Cadore qui fabriquent des lunettes, donc lunettes de vue. Et on a visité un musée de la lunette qui est absolument splendide, mais vraiment, vraiment splendide. À tout point de vue, tant au niveau de sa conception que des pièces qu'on peut y trouver. Et cette caractéristique du Cadore leur a permis de rentrer dans les districts choisis de Vénétie, puisque les districts, je rappelle, c'est des pôles d'activité qui mettent en lumière une région. Et la lunette est vraiment le typique du Cadore. Alors le sommet, sont tous des petits artisans souvent, mais la plus grosse, c'est une entreprise qui est à Agordo, par contre, qui est Luxottica, qui vient de se marier avec Essilor. Essilor, les uns étant spécialistes des montures, les autres des verres.
Hein. Ça promet.
Voilà. Ensuite, on a visité Cibiana, qui est un petit village au fond d'une vallée, qui était très connu pour sa fabrication de tout ce qui tourne autour de fer, de clés, de clous, etc. Et puis il y a eu une période de crise, il y a eu une période d'émigration. Et comment faire renaître ce village? Et un artiste et un autochtone ont eu cette idée de faire venir des artistes pour peindre les maisons des Morales, donc sur les murs de Cibiana, ce qui fait que le tourisme vient. Et une des petites entreprises, d'ailleurs, revit là au niveau de la fabrication des clés. Pas loin, il y a la vallée du Zoldo, qui était une vallée, elle, d'artisans glaciers, qui là aussi avait émigré à une époque, notamment beaucoup en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, voire même au-delà, aux États-Unis par exemple. Le jour d'après, on est allé à Belluno, qui est le chef-lieu de la province de Bellunese, et on en a profité pour visiter la ville et puis pour visiter le musée des migrations, puisque c'est une région où il y a eu beaucoup, beaucoup d'émigrations, notamment en Europe, beaucoup aussi en Amérique, aux États-Unis, au Brésil. Il faut savoir que São Paulo est une ville qui a été où il y a beaucoup, beaucoup de gens de Vénétie, hein, qui ont émigré, les États-Unis aussi, hein, je le précisais. Et c'est devenu aussi, cette ville est devenue une ville d'immigration, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent des pays dits de l'Est, enfin d'Ukraine, de Roumanie, et puis aussi d'Afrique, par contre, et puis d'Asie même, qui émigrent à Belou. Donc ce musée est très, très, très intéressant. On s'est arrêté à Agordo aussi, jumelé, je le rappelle, à la commune de Dolemieux, puisque Dolomites, hein, on rappelle, doivent leur nom à Déodat Dolemieux, le géologue. Et puis visite aussi de l'atelier d'un sculpteur qui s'appelait Augusto Murer, qui a fait beaucoup de choses, sculpteur sur bois et autres, et qui est décédé maintenant, qui se trouve à Falcade, et avec à côté l'atelier de Franco, son fils, qui lui aussi fait des choses intéressantes. Bon, après, on a aussi visité d'autres sites, comme la ville de Feltre, et que je recommande. Des choses plus ludiques, comme la brasserie de Pedavenna, par exemple. Et sur la fin de semaine, on s'est arrêté dans le Trentin, au musée de la civilisation ladine, de la culture ladine, culture très intéressante, qui a encore une
20 000 personnes, je crois.
50 000, mais 30 000 locuteurs, on va dire, qui s'étendent grosso modo du Sud-Tirol, Trentin, mais beaucoup dans la région de Cortina.
Mais c'est Cortina, etc. le capital, si on peut dire.
Et c'est intéressant, cette culture ladine est très, très intéressante. Langue, on va dire, un petit peu matée, enfin au départ celle même matinée de latin vulgaire, comme on disait, et puis après, bon, qui a subi quelques transformations. Alors, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas pratiquée comme langue officielle, mais elle est reconnue comme... enfin, elle n'est pas enseignée dans les écoles, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, elle peut être enseignée, mais elle n'a pas de diplôme, voilà. Hein. Mais elle est reconnue comme langue, et c'est très, très intéressant. Ensuite, on s'est arrêté dans le Sud-Tirol, alors là, et le Trentin, Trento et Bolzano, qui appartiennent à la même région, mais on voit que c'est deux provinces différentes. Oui. Même région, mais deux provinces autonomes à l'intérieur d'une région autonome, l'une étant germano-italienne, l'autre étant purement italienne. Et intéressant, c'est cette notion aussi d'autonomie. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais ce système qui permet de s'autogérer à part quatre ministères régaliens. Voilà. Enfin bon, on va pas repasser tout le voyage. Et donc beaucoup d'axes intéressants, et notamment on a pu vivre cette fameuse émigration italienne qui est partie un petit peu, enfin, qui a eu plusieurs destinations, dont les États-Unis. Ce qui va être aussi un de nos fils conducteurs aujourd'hui. Alors Serge, toi aussi, tu t'es baladé, mais à un autre moment.
À un autre moment, oui.
Voilà. Je crois avoir reconnu.
C'est reconnu. Quelques notes avant de vous donner le sujet de l'émission. Donc, je pense que vous avez deviné que si vous avez des cheveux plus sel que poivre, vous avez trouvé qu'on va parler de l'affaire Sacco et Vanzetti. Alors, l'idée de cette émission m'est venue il y a en gros un an en découvrant une chanson de John Baez qui s'appelle La Ballade de Sacco et Vanzetti, qu'on va entendre tout à l'heure. Par contre, c'est pas la version enregistrée par Georges Moustaki. J'emploie le mot enregistré de manière à rester objectif. Celle-ci est beaucoup plus poignante. Alors, je vais vous dire deux mots de la genèse de cette émission. En mai 2016, eh bien, après avoir entendu la chanson de John Baez, Wikipédia, Pagina Bianche, un coup de téléphone à la mairie de Villa Faletto, qui est le village natal de Bartolomeo Vanzetti.
Né en
1800. Pagina Bianche encore, un autre coup de téléphone, et en quelques minutes, j'ai eu le numéro de téléphone de monsieur Giovanni Vanzetti, qui habite à Turin, et qui est le neveu de Vanzetti. Donc ensuite, une attente de 5 mois, et monsieur Giovanni Vanzetti m'a dit que l'été, en prolongeant sur l'automne, il était jamais chez lui, mais à force de persévérance, on a pu convenir d'une interview. Donc l'affaire Sacco et Vanzetti, je pense qu'en France, les moins de 40 ans, et comme en Italie, posé quelques questions en Italie, si les gens connaissent Sacco et Vanzetti, pas grand monde, en dessous de 40, voire même 50 ans.
Je pense qu'ils connaissent les noms sans trop peut-être savoir effectivement de quoi il en retourne.
Tout juste les noms. Alors, pour introduire le sujet, notre première vraie chanson.
And says goodbye to friends and family. The fathers and the mothers weep, the children cannot comprehend. But when there is a promised land, the brave will go and others follow. The beauty of the human spirit is the will to find our dreams. And so the masses teemed across the ocean to a land of peace and hope. I lift my lamp beside the golden door. Blessed are the persecuted, and blessed are the pure in the heart. Blessed are
Alors, il existe plusieurs versions de cette chanson dont les paroles sont de Madame Joan Baez et de la musique d'Ennio Morricone. C'est une chanson qui est tirée du film dont on parlera tout à l'heure. On a choisi celle-ci parce qu'elle était en public et un peu poignante, mais il y a une autre chanson, donc il y a la même musique, mais un texte différent, et dans lequel le mot « against » revient assez souvent. Donc, c'est-à-dire contre, et dedans, il y a contre nous et la police, contre nous et l'argent, contre nous et la loi, c'est-à-dire le juge, et contre nous et la haine raciale. Et la chanson se termine par ces mots, la mort est petite. Donc, voyez, le décor est maintenant planté sur l'affaire Vanzetti. Donc, je vais la résumer, mais alors... en quelques mots, parce que l'affaire Sacco et Vanzetti, c'est des dizaines de livres, de pièces de théâtre, un film important. Donc je vais vous la résumer en quelques lignes. Donc Sacco et Vanzetti sont deux Italiens qui ont émigré aux USA. Donc Vanzetti est de Villa Faletto, qui est au nord de Cuneo. Et Sacco était des Pouilles.
Des Pouilles, oui, province de Foggia.
Voilà. Donc ces deux immigrés se tournent vers l'anarchisme et à un moment où les États-Unis traversent une période assez négative, c'est-à-dire aux alentours des années 20, une activité économique faible, la résonance de la révolution d'octobre, bien sûr, la naissance ou la présence de la mafia, et un État qui a besoin de montrer un pouvoir fort. Alors, en 1920, un hold-up, il s'agissait de voler la paye des ouvriers. Bon, à l'époque, c'était pas par virement. Hein. Et cet hold-up a fait 2 morts. Donc, on recherche les coupables seulement dans les milieux anarchistes italiens émigrés. Comme ça, ça va plus vite et le spectre de coupables potentiels est plus étroit. Donc, le juge désigne les coupables avant le procès. Je dis désigne parce que le jour du hold-up, Sacco était au consulat italien pour Absolument. Faire ses papiers pour retourner en Italie. On va en parler tout à l'heure, Monsieur Vanzetti nous en parle. Donc le consul est venu témoigner, mais son témoignage n'a pas été repris.
On pensait à une collusion.
Un peu. Sacco et Vanzetti donc, ont été condamnés en 1923 et exécutés le 23 août 1927. Et ils ont été réhabilités le 23 août 1977. Alors, on peut lever les bras au ciel à propos de cette manière de juger, mais on a connu, avec une dimension moins importante, bien sûr, un peu la même chose en France, mais heureusement, il y a la Cour de cassation. Et on a connu ça 100 ans plus tard. Je vais prendre comme exemple l'affaire Julien Coupa. Donc des gauchistes qui ont détruit, qui sont présumés avoir détruit des caténaires dont la destruction était revendiquée par un groupe allemand. Un procès qui a duré, enfin plusieurs procès qui ont duré de 2008 à 2016. Pas d'aveu, pas de preuves, pas de flagrant délit. Par contre, la justice doit avoir des résultats rapides. Donc ils sont jugés coupables jusqu'à, heureusement, la Cour de cassation les innocente. Donc ça, c'était, ça a commencé en 2008 sous une présidence ancienne.
C'est pas les mêmes époques,
bien sûr, les mêmes
conséquences de gré. Aux États-Unis, en fait, ils étaient devenus anarchistes. Enfin, on en reparlera, mais. Petit à petit, en fait.
Voilà, et c'est ça.
C'est beaucoup sur le... poursuivre d'ailleurs un avocat qui s'appelait Galani, un avocat italien, lui-même, qui créait des mouvements aux États-Unis. Et c'était ce qui... Ils venaient pratiquement quand il y a eu ce... À 2-3 années près, hein, quand il y a eu ce fameux hold-up dont ils étaient innocents, hein, je crois que c'est
sûr,
très oui. clair, ils avaient obtenu la nationalité américaine, d'ailleurs. Mais ils étaient considérés comme italiens.
Bien sûr.
Sauf s'ils devaient aller au front, quoi, aller à la guerre. Et... Voilà, enfin bref, tout ça pour dire qu'ils étaient, ils restaient des coupables désignés parce qu'ils étaient des émigrés italiens. Voilà.
Alors le 28 mars dernier, j'ai pu réaliser une interview de M. Giovanni Vanzetti avec l'aide de la radio RBE. C'est la radio de la communauté vaudoise de Luzerne à San Giovanni, près de Turin. Donc M. Giovanni Vanzetti a 78 ans. Il ne parle pas français et moi je ne parle pas italien. Un petit peu, mais pas assez. Donc je me suis tourné vers cette radio et son rédacteur en chef, M. Marco Magnano, a bien voulu faire cette émission. Et on a utilisé les questions que j'avais préparées et c'est eux qui ont fait l'interview.
Ci sono momenti nella storia e nella storia del Novecento ci sono momenti particolarmente forti in cui la storia degli individui incrocia quella, per così dire, con la S maiuscola. E questo è uno di quei casi, anche perché poi la narrazione e la cultura sono state fortemente influenzate dalla figura di una persona, quella di Bartolomeo Vanzetti. E abbiamo l'occasione di ripercorrere alcuni momenti di questa storia, di questa vicenda, con il nipote di Bartolomeo Vanzetti, il signor Giovanni Vanzetti. Benvenuto sulle nostre frequenze.
Grazie.
Insomma, lei è nipote di Bartolomeo Vanzetti.
Oui, dans cette première l'interview, enfin partie d'interview, on va dire, le Marco dit effectivement, fait référence à l'histoire des individus qui à un moment rencontrent l'histoire tout court. Alors il dit avec un grand S parce que c'est story en italien, mais on dit avec un grand H en français. Et donc il parle, bien sûr il veut parler de Bartolomeo Vanzetti, et il signale donc à Giovanni, il le remercie d'être venu pour reparler de l'affaire Vanzetti. Alors Giovanni explique qui il est exactement, quel lien de parenté il a avec Bartolomeo. Il est donc neveu de Vanzetti par le fait qu'il est le fils de Ettore Vanzetti, qui était le frère le plus jeune de Bartolomeo. Et il est donc maintenant l'unique neveu direct, puisqu'un autre est décédé. Il ne l'avait bien sûr pas connu, puisqu'il est né plus tard, puisqu'il est né en 40. Mais le peu qu'il a d'informations directes en famille, il le tenait surtout de Luigina, qui était la sœur aînée de Bartolomeo, très proche donc de Bartolomeo, et qui était même revenue des USA avec les cendres de son frère. Mais en famille, en fait, au départ, quand elle était revenue en Italie, elle en parlait très peu, tellement elle avait été traumatisée, au point donc de pratiquement plus vouloir en parler vraiment. Par contre, bon, petit à petit, tout ça a, on va dire entre guillemets, évolué dans la famille, et on en a, dit Giovanni, beaucoup reparlé dans les années 70, lorsque Vincenzina, qui est la plus jeune sœur de Vanzetti, qui était très jeune quand il y a eu le procès, vraiment gamine même, plus tard s'est intéressée à cette affaire Sacco et Vanzetti, et elle a créé en Italie des comités pour se battre à nouveau pour la réhabilitation de Sacco et de Vanzetti, qui a abouti en 1977.
Alors, pour ne pas plagier les historiens qui ont bien fait leur travail, hein, j'ai voulu placer cette discussion avec Giovanni Vanzetti sur un terrain personnel, sans entrer dans les détails politiques, juridiques de l'affaire, que tout le monde peut consulter sur Internet, et lire des livres aussi. Donc la famille Vanzetti, comme j'ai dit tout à l'heure, était du Piémont. Alors les causes de l'immigration italienne en général, c'est la misère et les raisons politiques. Pour être un peu plus direct, cette cause politique est souvent l'émigration des communistes à l'arrivée de Mussolini. Et notre collecte de témoignages qu'on a fait sur Bourgoin montre bien ces deux aspects. Par contre, là nous sommes bien avant l'arrivée de Mussolini, nous sommes une quinzaine d'avant. Mais Vanzetti n'a pas émigré pour aucune de ces deux raisons, c'était de bien d'autres choses qu'il s'agissait.
E lei, quando pensa appunto al suo legame di parentela, al suo ricordo di Bartolomeo Vanzetti, quanto lo sente, quanto la sente sua come storia?
Sua, mia, per il semplice fatto che era fratello di mio padre. Cioè, noi ancora adesso, dico, non c'è, non dico giorno, però in continuazione c'è qualcheduno che telefona, che chiama, che vogliono sapere, ci chiedono.
Oui, le Marco demandait au niveau du lien familial comment il ressent ce lien avec Bartolomeo. Et Giovanni précise que, bon, bah déjà parce qu'il était le frère de son père, donc le lien est évident, mais aussi par toutes les sollicitations qu'ils ont pu recevoir et qu'ils reçoivent encore d'ailleurs. On leur demande des lettres, on leur demande des photos, enfin tout document concernant Bartolomeo Vanzetti. Et il précise d'ailleurs que dans les années 80, tout a été donné au musée de la résistance de Cuneo, et qui, plutôt que de garder tout ça à la maison, ce qui devenait difficile et à organiser notamment, et à répertorier, alors dans un musée, ben c'est la fonction d'un musée. Après, pour reprendre ce que tu étais en train de dire, donc cette famille vivait à 18 kilomètres de Cuneo, Et le père de Bartolomeo, Giovanni Battista, lui avait émigré plusieurs fois, mais en tant que saisonnier aux États-Unis. Il revenait, en fait, il émigrait pendant la période de la récolte du blé, et puis revenait en Italie. Mais c'était pas une famille ni riche, mais ni pauvre non plus. C'est une famille moyenne qui avait sa propre maison, qui vivait sereinement. Et en fait, Bartolomeo, s'il a immigré, c'est surtout suite à une tragédie familiale, à la mort de sa mère, plus que par un besoin économique. Il avait été, sa mère était décédée d'une tumeur au foie. Il avait été tellement frappé par cette mort, puisqu'elle était décédée, morte dans ses bras pratiquement, qu'il a décidé de partir. Alors, Bartolomeo avait soif d'études. Et il voulait pousser ses études assez loin, mais son père était tombé sur un article de journal qui disait
la Gazette de Fossano.
Devenir avocat, c'est peut-être très bien, mais on gagnait pas grand chose. Donc à la limite, il valait mieux avoir un métier. Hein. Et c'est pour ça qu'il s'était lancé dans le métier de pâtissier. Et il était pâtissier dans 2-3 communes, dont Turin, du Piémont.
Voilà, on a ensuite évoqué le caractère de Vanzetti, et monsieur Giovanni Vanzetti, son neveu, le définit comme ça.
Forse lì potrebbe essere un qualcosa, una lettura del suo cambiamento, che era molto innamorato della natura, degli uccelli, e c'era una volta un quaderno di scritto che lui ha preso degli appunti, che è stato smarrito, non è più stato trovato da nessuna parte.
Oui, il le décrit comme quelqu'un qui aimait la solitude, en fait, oui. qui aimait la nature, qui aimait les oiseaux, qui aimait se balader le long du fleuve Maira, et qui était un garçon sociable, mais quand même épris de solitude. Il parle aussi
d'un petit peu taciturne,
et puis il parlait d'un petit cahier au petit bloc qu'il avait, sur lequel il notait des tas de choses. Mais comme malheureusement, on n'a pas retrouvé, qui a été égaré. Enfin voilà, il pense que ce caractère de solitude pouvait expliquer à un moment une prise de conscience sur d'autres choses.
Voilà, donc l'image de Vanzetti, c'est tout le contraire d'un anarchiste, le couteau entre les dents. Donc une petite pause musicale, peut-être sur l'anarchisme.
Mais on va écouter... Léo Ferret, vous savez que Léo Ferret a beaucoup vécu en Italie, et on trouve ses chansons qui étaient publiées en France en français, beaucoup sont publiées en italien et chantées par lui-même, et on va donc écouter Les anarchistes en italien, Gli anarchici.
Non sono l'1%, ma credetemi, esistono in gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché, penseresti che in Spagna proprio non li capiscano, sono gli anarchici. Già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato, e le anime corrose da idee favolose. Non son l'1%, ma credetemi, esistono figli di troppo poco, o di origine oscura, non li si vede mai, che quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte son morti come indifferenti, indifferente con l'amore nel pugno, per troppo e per niente han gettato testardi la vita, la malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non sono l'1%, ma credetemi esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare, che scende per strada, non lo dimenticare, sono gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavare la sporcizia. Non sono l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro non sbattere in terra, ma sono sempre in piedi, sono gli anarchici.
Vous êtes bien sur Couleur FM
97.1.
Donc on a écouté Gli Anarchici par Léo Ferré.
Alors, pour préparer cette émission, j'ai lu un livre sur Sacco et Vanzetti. C'est un livre de Ronald Craig qui est édité aux éditions de Paris. Alors, je ne sais pas s'il fait autorité ou pas, mais j'ai retrouvé ce qu'il disait.
Il est dans ceux qui ont été bien lus, on va dire.
J'ai retrouvé dans ce qu'il disait des paroles qu'a confirmé M. Vanzetti et aussi le contraire. Alors, donc, le titre, c'est simplement « L'affaire Sacco et Vanzetti ». Et dans ce livre, il est fait état par l'auteur de plusieurs versions de l'autobiographie qu'aurait écrit Vanzetti en prison. Et Monsieur Giovanni Vanzetti, lui, on l'entendra, s'inscrit en faux sur ce fait. Alors, Vanzetti a émigré aux États-Unis en 1908. Il avait 20 ans, à un âge où la conscience politique se forme. Et j'ai voulu savoir s'il était anarchiste avant de partir ou s'il est devenu aux États-Unis. Donc on voit ce jeune homme d'un milieu médian, quoi, classe moyenne, doux comme un agneau, taciturne, un peu seul. Donc est-ce qu'il avait une face cachée en quelque sorte?
Facciamo un passo in avanti nella biografia, nella storia di Bartolomeo Vanzetti. Lui, tra le altre cose, ha scritto una sua biografia in prigione. Sembra che ne esistano parecchie versioni, così si dice. È possibile fare un po' di chiarezza su questo punto?
Allora, che io sappia, vere biografie lui non l'ha mai fatta. Lui, quello che ha sempre fatto e che scriveva molto ai parenti in Italia, agli amici di fede politica, tutte queste cose. Questo sì, scriveva tantissimo. Però di biografia vera e propria io non ne ho mai sentito parlare in un modo, cioè, reale, ecco.
Sì, forse possiamo parlare più di testimonianze che non di biografie.
Beh, certo, perché lui era in collegamento continuo con il comitato che si era formato a Boston, Prosciacco e Vanzetti, con gli avvocati, era lui che teneva la corrispondenza, gli incontri e preparare la loro difesa, tutte queste cose. Però quelle erano parti, io non ritengo fosse una biografia, certo. Ecco.
Ecco, in una delle biografie invece, quella citata nel libro di Ronald Craig, Bartolomeo Vanzetti dice che i suoi occhi si sono bagnati lasciando l'Italia poco prima di Modane. Dice, è così che questo senza patria abbandonò la sua terra. Ecco, gli anarchici sono di loro formazione, ma un po' per storia, internazionalisti. Bartolomeo Vanzetti era già anarchico prima di lasciare l'Italia?
Assolutamente no. La famiglia è sempre stata una famiglia molto cattolica, tant'è vero che lui andava tutte le domeniche a servire la messa, andava alla benedizione, e avevamo anche come famiglia addirittura due posti privati, noi le chiamavo i confessionali, cioè quelle inginocchiatoie.
Oui, alors la première question, la première partie, c'est la question effectivement sur la fameuse biographie en prison et plusieurs versions en plus de cette autobiographie. Et, bon, Giovanni Vanzetti est assez catégorique là-dessus.
Oui.
Il dit que selon lui, il n'a pas écrit proprement une biographie. En revanche, il écrivait beaucoup, il écrivait des lettres, il écrivait des notes, et c'est lui qui gérait aussi les relations avec les comités de soutien.
Parce que Sacco avait fondu les plombs à un moment.
Oui, un petit peu, on en reparlera sans doute. Et donc, pour lui, on ne peut pas appeler ça une biographie, il y avait tout simplement un ensemble de notes et de lettres, mais il n'a jamais fait la démarche d'écrire une autobiographie. Et question lui a été posée aussi sur Bartolomeo qui quitte l'Italie, les larmes aux yeux, notamment peu avant Modane. Alors, il faut savoir que Sacco était parti de Naples, lui, par bateau. Alors que Vanzetti était parti du Havre.
Voilà.
Voilà pour ce qui explique la partie française du parcours. Et alors, est-ce qu'il était anarchiste avant d'aller aux États-Unis? Giovanni dit non, c'était une famille catholique, très croyante, donc il servait même la messe. Et donc rien ne supposait le destiner à une activité anarchiste. Et donc, quand il était, par contre, on a dit qu'il avait été pâtissier, il avait rencontré beaucoup de gens, et puis il aimait, par contre, bien discourir avec des pharmaciens, des intellectuels, sans pour autant aborder, qu'il le sache, de sujets sur l'anarchisme. Selon lui, c'est plutôt vers 1915, lorsqu'on lui demanda d'être enrôlé dans l'armée américaine, de par sa nouvelle nationalité, ou éventuellement italienne par son ancienne, pour la Première Guerre mondiale, qu'il refusa, et avec un bon nombre d'autres compagnons, et il est parti un moment au Mexique. D'ailleurs, entre parenthèses, John Bezen est au Mexique. Et il s'est là, selon lui, rapproché de l'anarchisme, même si, selon Giovanni, c'est peut-être pas le mot très approprié.
Oui.
Il parle, lui, plutôt de syndicalisme d'action, car, dit-il, les groupes étaient nombreux, mais n'avaient pas toujours des relations entre eux. En tous les cas, il ne faisait pas partie de groupes qui commettaient, par exemple, des attentats au nom de l'anarchisme. Et lui, il dit que les groupes comme le sien organisaient davantage la défense des travailleurs qui vivaient dans des conditions inhumaines, 12 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, totalement sous-payés. Et donc il avait été actif avec d'autres sur l'organisation de manifestations pour se libérer du joug industriel, en fait. Et voilà, en tous les cas, comment voit Giovanni
oui,
l'anarchisme chez son
place,
oncle,
ouais.
En fait. Hein.
Alors, les noms de Sacco et Vanzetti ne sont jamais prononcés l'un sans l'autre. Même procès, nombreuses photos où ils sont ensemble, et cette sorte de gémellité est renforcée par le fait qu'ils sont souvent photographiés, monotés l'un à l'autre. Et pourtant, ces deux personnes vraiment différentes. Sacco a rencontré une Italienne aux États-Unis. Donc, ils se sont mariés, ils ont eu un premier fils, et sa femme était enceinte d'une fille quand il a été emprisonné. Donc, lui, Sacco, avait exercé le même métier pendant 8 ans, et il avait une formation professionnelle. Et il était dans une sorte de spirale ascendante, quoi. Il était chef d'équipe.
Alors que dans les Pouilles, il travaillait dans
une corderie,
puis dans une oliveraie, dans les Pouilles,
voilà.
Plutôt.
Vanzetti, lui, n'a pas eu la même vie. Il n'avait pas de famille, donc il n'était pas marié, pas d'enfant, et a changé multiples fois d'employeur et a fait plusieurs métiers qu'on pourrait qualifier de survie.
Quindi ecco, la sua posizione politica ha influenzato in qualche modo anche il suo stato di famiglia. Ci si chiede, era normale che non fosse sposato o era una volontà deliberata per una specie di causa libertaria?
Ma questo, guardi, io non glielo saprei a dire. Io penso che, perché so che in quegli anni Bartolomeo aveva una relazione, però che noi non sapevamo, cioè, di queste cose, perché lui era là da 12 anni, 8-10 anni, e scriveva per la salute, informava la famiglia, scriveva, io non dico tutte le settimane, ma almeno in famiglia, almeno ogni 20 giorni, un mese, c'era una lettera che andava e che veniva, che scriveva alle zie, anche non solo al papà o alle sorelle, Luigina, la più vecchia, che erano quello dove lui aveva un certo rapporto, perché erano i due più vecchi della famiglia, perché la sorella Luigina e il fratello Ettore erano molto più giovani loro, perché lui è dell'88 e poi invece Vincenzina è del 1903 e Ettore del 1905. Perciò quando lui è partito per gli Stati Uniti, Ettore aveva 3 anni e Vincenzina ne aveva 5.
Sì, quindi certo, sono questioni quelle, diciamo, di famiglia, che rimangono un po' nelle pieghe in questo caso. Lui è partito a 20 anni e ha scelto l'America e non la Francia, per esempio, dove la lingua poteva essere un po' più amichevole, ma aveva già dei collegamenti sul posto? Perché questa scelta?
Allora, lui era convinto di trovare una nazione più democratica, più avanzata nel progresso, e poi anche perché comunque a New York c'era un cuoco di Villa Falletto che lavorava in un grande albergo, che le aveva detto: se vuoi venire giù io ti procuro un lavoro e poi farai. E difatti lui, quando è andato, dopo ha sbarcato all'isola, fatto le visite come si doveva fare, è andato direttamente in questo hotel a lavorare come aiuto cuoco. Però dopo 8 mesi se n'è andato, perché non era... lavoravano fino alle 3-4 della notte, gli scarichi dell'acqua non funzionavano, dopo 2 ore stavano 7-8 ore al giorno con l'acqua che le arrivava ai polpacci. Ho detto: qui ma finire che mi prendo una TBC, e allora se n'è andato, è andato, è emigrato, ha cominciato a girare un po', è andato in campagna, così come salute stava meglio, e fare i lavori che occasionali trovava. Ha fatto lo spaccapietre, ha lavorato nella ferrovia, è andato a lavorare anche in ditte, in una fonderia, insomma. E poi è arrivato dopo questo fino al 1916, praticamente, quando sono fine del 15, che sono emigrati negli Stati Uniti, in Messico. Quando è rientrato invece è andato quasi subito a Boston, perché a Boston c'era una grossa, grande numero di italiani, per il semplice fatto che erano molti emigranti della zona di Cento, e perché lì a Boston c'era la più grossa fabbrica di cordami allora, e che servivano della manodopera specializzata a fare queste grosse corde. E a Cento c'era una fabbrica di cordami che era la più grossa dell'Europa allora. Allora loro naturalmente là li pagavano meglio e sono andati. E allora lui era andato con questa gente, e avevano subaffittato una camera ed è stato lì con loro fin quando l'hanno arrestato. Poi nel frattempo è andato anche lui a lavorare in questa fabbrica di cordami, e ha lavorato un po', poi anche lì hanno organizzato uno di questi scioperi, perciò lui finito quando hanno fatto gli accordi, lui è stato licenziato perché si potevano fare, e allora lui non è più andato in fabbrica, ma un suo conoscente che faceva il pescivendolo, che aveva un carretto, che vendeva il pesce come ambulante, ha detto: guarda, io se ti interessa alla fine dell'anno me ne va, ritorno in Italia, ne ho abbastanza dell'America, e così. E lui ha acquistato questo carretto con questa licenza e ha iniziato a fare questo lavoro fin quando è stato arrestato.
Però non ha mai, come dire, fatto, non ha mai innestato una spirale ascendente nella scala sociale, nonostante fosse una persona appunto con una certa formazione, con una certa predisposizione anche alle professioni. Non ha mai avuto accesso a mestieri con qualifica. Secondo lei perché? Sia negli Stati Uniti sia in Italia, tra l'altro.
Beh, in Italia lui ha fatto 4 anni il pasticcere, poi là negli Stati Uniti lui andava... non ha trovato quello che lui pensava.
Certo.
Lui pensava di arrivare, di trovare una situazione, e invece ha visto che la situazione era come in Italia, se non peggio.
Voilà, alors c'est assez long, mais c'est intéressant. On l'a laissé en entier.
Oui, je voulais qu'on entende la fin.
Oui. Alors, au début, donc, on parle de son. Est-ce que c'est un choix ou pas d'avoir, ne pas être marié, avoir d'enfants? Est-ce que c'est une position libertaire, entre guillemets?
Voilà.
Alors, là-dessus, il était un petit peu gêné, Giovanni. Il n'a pas vraiment la réponse. Parce qu'il dit, bon, Bartolomé écrivait beaucoup à sa famille, il écrivait beaucoup. Notamment toujours l'aîné de ses sœurs, et puisque les autres avaient un décalage d'âge, encore une fois, que ce soit Vicentina ou Ettore. Mais si on sait qu'il avait une relation, voilà, ça s'arrête un peu là.
Voilà, hein, ça s'arrête là.
Alors pourquoi on lui demande, j'avais dit aussi d'autres choses autour, mais on lui demande pourquoi il est parti aux États-Unis plutôt qu'en France, où la langue est plutôt plus proche de l'italien. Alors il dit que c'est un peu le rêve américain en fait.
C'est ça.
Et,
oui.
Il pensait qu'il était convaincu qu'il allait trouver là-bas une nation avancée, très démocratique, beaucoup plus démocratique que ce qu'on avait en Europe par exemple. Et puis, à New York, il y avait un cuisinier qui était originaire du même village que lui et qui lui proposait d'aller travailler avec lui, en fait. Donc, il aurait un emploi déjà trouvé au départ. Oui. Alors, il y est allé, il a travaillé dans cet hôtel, mais il a laissé tomber au bout de 8 mois, car les conditions étaient trop, trop difficiles. Il finissait à des heures impossibles. Alors après, il a travaillé dans les chemins de fer, il a travaillé à la fonderie, il a cassé des pierres. Il a fait beaucoup de métiers plus ou moins qualifiés, plutôt moins que plus d'ailleurs. Et au retour du Mexique, là, quand ils avaient refusé d'être enrôlés dans l'armée américaine, il est allé à Boston parce que Boston avait cette particularité d'avoir beaucoup d'Italiens et beaucoup notamment d'entreprises de corderie. Or, en Italie, pas très loin de chez lui, à Cento, il y avait une entreprise de corderie qui demandait là peut-être une certaine qualification. Donc les corderies de Boston embauchaient beaucoup d'Italiens qui avaient travaillé notamment dans les corderies de Cento. Dans tous ces métiers, même celui-là d'ailleurs, l'ami Bartolomeo se positionnait comme défenseur de l'opprimé, on va dire, et il organisait des grèves, et ça s'est passé là aussi près d'une grande corderie de Boston où il a été après licencié. finalement, il est devenu, et c'était au moment de cette fameuse... enfin, ce qu'on lui attribuait comme méfait, qui encore une fois était faux, il était vendeur de poissons, et il était devenu un vendeur de poissons parce qu'il avait...
Par hasard, quoi.
Un peu par hasard, c'est un Italien qui était... là-bas, qui avait une petite affaire de poissonnerie ambulante, on va dire, mais qui commençait à en avoir... enfin, être très fatigué des USA, il voulait rentrer en Italie, et il lui a proposé de racheter
son fonds de commerce.
Enfin, son fonds de commerce, ce qu'il a fait, et il a travaillé là-dedans jusqu'à son arrestation. Et puis, pour revenir sur les États-Unis, et pour revenir sur le fait qu'il n'a... pas trouvé, enfin qu'il n'a jamais travaillé dans des travaux vraiment très qualifiés malgré ses moyens et intellectuels notamment. Bon, il a rappelé l'activité qu'il a, Giovanni a rappelé l'activité qu'il avait en Italie, mais il a dit que parce que en fait il n'a jamais trouvé aux USA ce qu'il espérait.
Non, a trovato quello che lui pensava.
Voilà, il pensait y trouver, on disait tout à l'heure, une situation entre guillemets un peu idyllique. Et en fait, il y a trouvé une situation qui était similaire à l'Italie. Il a même rajouté, voire pire.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu laisser ce morceau en entier, parce que la dernière phrase résonne quand même de nos jours avec tout ce qui peut se passer. Quoi. Une chanson.
Bon, on va enfin l'écouter.
On va enfin l'écouter.
Cette chanson, ce morceau du début, qui était aussi extrait du film, et que vous avez dû entendre maintes fois sur différentes antennes, dont sans doute celle de Couleur FM 97.1.
Oui.
Donc, par John Baez, It's to You.
Voilà, avec cette chanson, les plus de 44 ans...
Il y en a eu d'autres interprètes. Hein,
il y en a eu
pas
d'autres.
Pas toujours, oui. Dont on parlait de Moustaki tout à l'heure, qui était... qui avait chanté, mais il y avait aussi Marco Jouret, Lenny Scudero, qui avait des versions différentes.
Non, mais pour moi, il n'y en a qu'une.
Non, mais ce n'était pas la même chanson. Hein.
Ah, c'est pas la
c'était
même.
C'était Le jour de Sacco e Vanzetti pour Marco Jouret. Lenny Scudero, c'était, si je me souviens bien, Sacco e Vanzetti et les autres.
Ah, d'accord.
Il y a eu Moustaki, c'était La Marche.
Alors oui, là, c'était la même
traduction. Hein.
Alors, à propos de traduction, donc, je vais vous traduire la chanson, mais comme c'est les quatre vers qui reviennent souvent, je vais le dire qu'une seule fois. Alors, maintenant, Nicolas. Alors, Nicolas, c'est Sacco, et ouais. Bart, c'est Bartolo Vanzetti. Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle, vous vaincrez. Bon. Donc, pour écrire cette chanson, et puis les autres qu'elle a écrites sur l'affaire Sacco et Vanzetti, John Baez s'est inspiré des paroles prononcées lors du procès. Donc ça, il s'agit d'une chanson, pour moi c'est plus la bande-annonce de chanson, du film de Giuliano Montaldo, dont on parlera dans la prochaine émission. De même, la première chanson de John Baez qu'on a écoutée venait du même film. Donc cette première émission avec Monsieur Giovanni Vanzetti est maintenant terminée. Vous pourrez bien sûr l'écouter en ligne sur le site de Couleur FM, tout simplement en tapant Couleur FM. Et il y aura deux émissions sur le sujet. Alors la radio RBE, chez qui on a enregistré, parce que je ne voulais pas utiliser notre petit micro portable, la radio RBE va aussi utiliser l'interview pour faire une émission en italien. Et nous avons décidé de nous échanger ces deux émissions. Donc il sera intéressant de comparer ce qui a été fait d'un côté et de l'autre des Alpes. Donc pour terminer, je voudrais remercier sincèrement, bien sûr, Monsieur Giovanni Vanzetti, qui a bien voulu répondre à nos questions, qui s'est déplacé de Turin à Luzerna, ce qui fait quand même 60 km aller-retour. L'après-midi, il avait un rendez-vous chez le médecin. La radio RBE, donc au travers de Matteo Scaldi, le rédacteur en chef, qui a mis à notre disposition ses studios parfaits. Et Marco Magnano, le journaliste donc que l'on entendait, qui a su transformer mes questions en conversation. Je voudrais remercier aussi Mariana Bertolino, avec qui on a souvent travaillé à l'INIS, tant dans les séjours d'immersion qu'à la radio, qui était présente avec moi dans la cabine et qui a su, je ne sais pas comment elle a fait, traduire juste les mots que je ne comprenais pas, avec son efficacité habituelle. Je voudrais remercier aussi Caroline Brouet, qui est productrice de la matinale du samedi sur France Culture, qui a bien voulu lire mes questions que je projetais de poser à M. Vanzetti et qui m'a conseillé pour construire cette émission. Je voudrais remercier aussi Couleur FM, qui pour cette émission a fait preuve d'une grande souplesse et d'une première pour nous avec de la traduction. Enfin, je voudrais remercier ma femme qui m'a rappelé de ne pas oublier de remercier.
Bien, eh bien, merci Serge, et merci Laurent, et puis rendez-vous à la prochaine émission, à la suite, on va dire, hein, de cette émission sur Bartolomeo Vanzetti. À l'écoute de l'Italie. Une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan. Mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.